Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Aliette Ovin et Cédric Fuentes. À la réalisation, Anna Olvec, prise de son, Emmanuel Morse-Duncan.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous clôturons cette série consacrée aux vestiges de la colonisation, vestiges politiques et économiques d'un passé qui ne passe pas. Après avoir examiné les nouvelles voies de la puissance au lendemain des indépendances, interrogé la survivance du franc CFA et la fin du règne des entreprises tricolores en Afrique, ce sont les imaginaires et les esprits que nous allons sonder aujourd'hui. Les débats sur le passé colonial de la France reviennent régulièrement dans l'espace public, les uns dénonçant la permanence d'un état colonial qui discrimine les populations issues des anciennes colonies, les autres plaidant pour un universalisme républicain qui transcende les différences ethniques. Alors quelle trace la colonisation a-t-elle laissé dans notre société encore traversée par de multiples fractures? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du poids de l'héritage colonial en France en compagnie de Didier Lapéroni, sociologue, professeur à l'université Paris-Sorbonne, auteur de « Ghetto urbain, ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui » paru aux éditions Robert Laffont, en compagnie également d'Ahmed Boubekeur, en duplex de Lyon, sociologue, professeur à l'université de Saint-Étienne et auteur de « Histoire politique des immigrations postcoloniales » publié aux éditions Amsterdam. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'Écho par Arjuna Andrade et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire alternatives économiques. Bonjour Didier Lapéroni et Ahmed Boubekeur.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer cette émission, je voudrais vous faire entendre le sociologue Éric Fassin.
Je pense que être aveugle à la race, ça peut, dans certains contextes, c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, et il me semble qu'à certains égards c'est le cas en France, être une position conservatrice, qui est une manière non pas seulement d'être aveugle à la race, mais aussi aux discriminations raciales. Donc, en fait, la question, c'est comment arriver à faire quelque chose pour ne pas reproduire éternellement ces discriminations raciales. Parce que si on voit qu'il y a toute une catégorie de la population qui se retrouve systématiquement en bas de l'échelle, eh bien, soit c'est dans leur nature, et à ce moment-là, on croit vraiment à la race, soit c'est dans leur culture, et c'est un euphémisme pour parler de race, soit c'est des mécanismes sociaux. Et si c'est des mécanismes sociaux, ça veut dire que nous en sommes responsables. Et pourquoi sont-ils perpétués aujourd'hui? C'est bien parce que le passé pèse sur le présent.
Voilà un extrait de la Grande Table du 13 mai 2013 sur France Culture. Le passé colonial de la France continue à peser sur le présent, Ahmed Boubekeur.
Oui, effectivement, on peut dire que ce passé continue à peser. Néanmoins, il ne faut pas parler d'une simple reproduction de la situation coloniale. On est loin de cette situation et c'est un peu simpliste que de parler de reproduction dans le sens où il y a effectivement des représentations et des pratiques hein, du passé colonial qui continuent à peser sur le présent. Donc là, on a entendu Fassin, mais il y a aussi beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur la question et qui soulignent à quel point des images et des mythes coloniaux restent au présent dans nos représentations publiques, un peu comme si vous voulez, les images qui ont dessiné l'imaginaire, hein, sur les colonisés, comme si ces images n'avaient pas été déconstruites, hein, précisément parce que la France a préféré oublier, hein, préféré tourner cette page de son histoire qui n'était pas une page glorieuse.
Alors on va revenir sur ces représentations, Ahmed Boubekeur, mais d'abord je voudrais vous entendre, Didier Lapéroni, est-ce que vous diriez, par rapport à ce que nous disait ici Éric Fassin, qu'on a tendance à occulter la dimension raciale des discriminations sociales?
La question est curieusement posée. Là, on n'occulte pas la dimension raciale des discriminations raciales. C'est souvent dans le monde intellectuel ou chez les sociologues, cette idée a été que les problèmes sociaux ou les discriminations étaient de nature sociale et pas de nature raciale. C'est une pensée qui a longtemps consisté à évacuer la dimension, je crois, structurelle des phénomènes de ségrégation ou de discrimination raciale en France. La difficulté est que c'est difficile de séparer les choses. C'est-à-dire que les dimensions sociales et les dimensions raciales sont étroitement mêlées dans ces histoires-là et qu'il est impossible de les différencier, même si la dimension raciale et c'est une partie d'héritage colonial ou post-colonial, disons, est fondamentale dans la structuration de certains espaces ou de certains milieux sociaux.
Et alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la recherche universitaire française, Ahmed Becker, s'empare davantage de ces questions raciales aujourd'hui ?
Oui, mais pour prolonger un petit peu ce que disait Didier Lapéroni, effectivement, sur la question sociale et la question raciale, il y a effectivement une discussion aujourd'hui. Il y a effectivement le livre des frères Fassin, donc qui était titré justement sur le passage de la question sociale à la question raciale. J'ajouterais pour le meilleur et pour le pire. Hein, alors le meilleur, c'est une ouverture de perspectives. Hein, ou je dirais une sorte de sortie du déni français que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur toute une histoire. Effectivement, parce que l'immigration plus largement, c'est longtemps resté en France, dans le monde de la recherche, c'est longtemps resté un objet honteux, hein, comme une espèce de trou noir, hein, dans la tradition française des sciences sociales, qui était en quelque sorte victime de ce que Bourdieu appelait un chauvinisme de l'universel. Donc effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de travaux sur ces questions et effectivement qui articulent la question sociale et la question raciale. Ça veut dire qu'il ne faut pas opposer ces deux questions. Hein. Elles sont articulées, il y a une historicité de la question sociale et la question des discriminations, elle pose aujourd'hui sous un autre jour la question des inégalités qui est au cœur justement des questions que pose la question sociale.
Mais alors l'université anglo-saxonne s'est emparée de ces questions ethniques avant nous à travers les post-coloniales. Comment est-ce que vous expliquez, Ahmed Boubekar, pour continuer sur cette question, comment vous expliquez pourquoi la question ethnique ou post-coloniale a été aussi longtemps occultée par les sciences sociales en France ?
Eh bien, parce qu'en France, on avait une tradition où, en fait, le social primait surtout. Le culturel était vraiment secondaire. On a eu quand même aussi à l'université une présence très marquée du marxisme et du structuralisme. Et les questions culturelles sont restées longtemps secondaires. Et effectivement, les questions culturelles, les questions liées à la race étaient posées autrement aux États-Unis. D'autant plus qu'à aux États-Unis, il y avait on avait abordé les questions autour de la question d'ethnicité, hein, qui a permis de remplacer le vocabulaire racial dans le langage des sciences sociales aux États-Unis. Et en France, ce terme ethnicité, hein, cette notion ne prend que peu à peu une dimension conceptuelle, hein, et notamment face aux réserves d'une institution universitaire, hein, qui l'identifie, enfin qui l'a longtemps identifié comme une arme idéologique pour actualiser les théories raciales. Ou du moins, en fait, comme un concept qui serait simplement localisé dans le contexte des relations entre groupes aux États-Unis.
Et ce qu'on voit aujourd'hui, Didier Lapéroni, c'est que le retour de ces sujets dans le champ universitaire entraîne de vives résistances. Il y a eu une tribune parue en novembre 2018 dans le journal Le Point et signée par 80 intellectuels qui accusaient le décolonialisme de remettre au goût du jour la question raciale. C'est encore le lieu de débats importants à la fois à l'université et puis plus largement dans la société.
Deux choses. D'abord, je ne suis pas sûr que le fait de poser la question raciale et avoir quelque chose avec le post-colonial et post-colonial studies, ou même si elles l'ont reposé d'une nouvelle façon.
Vous sépareriez les deux choses.
Dans la sociologie américaine ou dans la vie intellectuelle américaine, les sciences sociales américaines, cette question raciale, elle existe depuis pratiquement le début de l'existence des sciences sociales. Donc c'était bien avant la mode des post-colonial studies.
Absolument.
Donc c'est quelque chose qui est plus ancien, et les post-colonial studies n'ont pas été d'un apport fondamental, disons, dans la compréhension qu'on peut avoir de ces phénomènes. Il me semble que dans ce que vous dites, le débat, il y a une dimension proprement idéologique ou proprement politique dans toutes ces histoires, comme toutes les catégories des sociologues sont des catégories mixtes, à la fois scientifiques et politiques. Donc ça suscite un débat et des hostilités, comme le disait Fassin, d'une pensée qui est une pensée plutôt conservatrice, dans la mesure où on veut pas voir un certain nombre de réalités sociales, ou ne pas les interpréter, disons, comme me semble-t-il, elles doivent être interprétées. Donc je pense qu'il faut séparer les choses de ce point de vue-là.
À ce propos, je voudrais vous faire écouter la politologue Françoise Vergès. Elle nous parle de l'importance de la mémoire coloniale sur les représentations.
Qu'est-ce qu'on fait de l'esclavage et du colonialisme dans l'histoire de la France ? Est-ce qu'on en fait effectivement un tout petit chapitre dans un coin, un petit paragraphe, ou on met au centre? Au centre, non pas qu'elle détermine tout. Il faut surtout pas lire ce qui se passe aujourd'hui à la lumière du passé. Ça serait complètement idiot. Mais elle est au centre en cela qu'elle constitue la France. Elle constitue l'identité nationale. On fait pas une traite pendant 2 siècles sans que ça n'ait un effet sur les représentations du noir, sur les représentations de l'Afrique. On colonise pas, on n'a pas un empire immense sans que ça ait un effet sur les représentations que l'on a, sur les autres, sur ces gens de là-bas. Il y a un sentiment d'une marginalisation de ces questions.
Un extrait des Matins de France Culture du 14 novembre 2005. Ahmed Boubaker, on l'a dit, la recherche a avancé sur ces questions ethniques, mais est-ce que cela s'est traduit au niveau politique? C'est maintenant la question qui se pose.
Bien, au niveau politique, ça a effectivement évolué, mais je dirais pour le pire. Pour le pire dans le sens que autant il y a des réflexions nouvelles qui se sont ouvertes en sociologie, en sciences sociales en général, autant du point de vue politique, on assiste à une effectivement ethnicisation du discours politique qui stigmatise certaines populations et qui en tout cas les rend responsables d'une sorte de panique identitaire qui touche aujourd'hui la France. Alors là, bien sûr, c'est toute la discussion aussi sur la question de l'intégration. C'est que le terme est passé d'un registre qui serait d'abord un registre sociologique à un lexique politico-médiatique. Et donc, il a été utilisé avec des arrière-pensées politiciennes évidentes pour stigmatiser des populations de banlieue, en particulier les jeunes des banlieues populaires. Alors bien sûr, effectivement, sur l'intégration, personne ne peut nier que le modèle français a longtemps fonctionné pour les populations, pour les vagues d'immigration européenne, mais c'est un secret pour personne qu'effectivement, depuis une quarantaine d'années, bien il se heurte à l'expérience de l'immigration postcoloniale et à celle de ses héritiers. Et ça, c'est un vrai chantier politique, un vrai problème politique un chantier auquel n'ont pas répondu les différents gouvernements depuis les années 80.
Pour le sociologue Michel Vievorka, la crise du modèle français d'intégration remonte aux années 70, au moment où l'immigration en provenance des ex-colonies du Maghreb n'est plus seulement une immigration de travail, mais une immigration de peuplement. Et toute la question qui se pose, Ahmed Boubaker, c'est effectivement qui porte la responsabilité de ces difficultés d'intégration dont on parle beaucoup. Est-ce que c'est les institutions ou est-ce que c'est les individus eux-mêmes? On voit que la question est évidemment très politique et idéologique.
C'est précisément tout le problème. On voudrait faire porter aux immigrés le poids d'échec du modèle français d'intégration. Donc on a effectivement quelque chose qui est problématique à ce niveau-là. Mais la vraie question, c'est que depuis les années, la fin des années 70, et plus précisément depuis le choc pétrolier, depuis la crise, on a un vrai souci qui est lié au fait que nos sociétés ont profondément changé. Et le problème, c'est que c'est les institutions, enfin les relais institutionnels de l'intégration qui ne fonctionnent plus. Parce qu'on ne s'intègre pas comme ça à la France avec un grand F. Il y a des relais institutionnels qui sont effectivement l'école, qui sont les entreprises, qui sont les syndicats, les partis politiques.
Mais dans les années 80, Ahmed Boubaker, il y avait eu des espoirs qui avaient été suscités, notamment par la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, également appelée la marche des beurs, qui avait participé de cette mise en visibilité des minorités ethniques.
Eh ben effectivement, c'était précisément pour faire valoir une forme de résistance, des formes de lutte politique de la part des principaux concernés, justement pour protester contre le fait que déjà à l'époque l'intégration ne fonctionnait plus et la place qui devrait être accordée à ces personnes qui sont nées en France, qui sont d'origine étrangère certes, mais qui sont nées en France, eh bien cette place-là, eh bien elle n'était pas assurée, elle n'était plus du tout assurée.
Et alors justement, cette question ethnique, elle avait ressurgi sur le devant de la scène, elle ressurgit régulièrement lorsque les banlieues s'enflamment, ça avait été le cas dès juillet 1981 dans le quartier des Minguettes dans la banlieue de Lyon, Ahmed Boubaker, et puis ça a été le cas évidemment lors des émeutes de 2005. Ce que vous expliquez, c'est qu'à partir du milieu des années 80, la question ethnique est à nouveau étouffée. Pourquoi? Parce que la gauche est trop frileuse et finalement laisse le débat à l'extrême droite?
La question n'est pas de valoriser la question ethnique en elle-même. La question, c'est de poser précisément la question sociale dans ses rapports à la question, effectivement, des discriminations. Donc c'est le lien qu'on peut articuler entre la question d'ethnicité et la question sociale plus largement. Hein. Et c'est nettement la question des discriminations qui est posée et qui devrait, parce que c'est le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement toute une partie des populations des quartiers et des banlieues populaires se retrouvent exclues, hein, se retrouvent totalement en dehors de la société française, dans des situations qui sont tragiques. Hein. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'il faut sortir de cet imbroglio.
C'est dans les années 80, Didier Lapéroni, que l'on acte en quelque sorte l'échec du modèle d'intégration français.
Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un échec du modèle d'intégration française. Français, pardon. On peut aussi penser que les problèmes que nous rencontrons sont dus au succès de ce modèle.
Dans quel sens?
Dans le sens où la plus grande partie de la population migrante s'est parfaitement intégrée. Et que au fond il y a une part de cette population qui rencontre des difficultés, mais de fait il me semble, notamment parce que en l'occurrence on parle pas de toutes les populations, on est quand même focalisé sur les populations d'origine maghrébine ou qui viennent du Maghreb beaucoup plus que sur les autres populations, mais de fait si on regarde l'évolution de cette population, c'est plutôt bien intégré dans son ensemble, y compris dans les années 2000, même si une part d'entre elles est restée sur le bord de la route, dans un certain nombre d'endroits et dans des difficultés que vient d'évoquer Maître Boubekar, qui sont très très dures. Donc
des taux de chômage deux fois supérieurs dans les quartiers où les populations
si vous voulez noires
et maghrébines
traiter de cette
sont
population, vous ne traitez pas forcément du devenir des populations migrantes dans leur ensemble. Donc je suis très réservé sur cette idée que le modèle aurait totalement échoué. Et on peut même penser que les réactions hostiles, disons, et la montée de ces thèmes ethniques du point de vue racial ou du racisme, si vous voulez, sont aussi le produit du succès de ce modèle et du succès de cette intégration ou de la relative réussite de cette intégration. C'est-à-dire qu'on est raciste vis-à-vis des plus proches la plupart du temps, pas vis-à-vis des populations qui restent marginales.
Alors c'est quand même un modèle qui est largement discuté, dénoncé et critiqué. Je vous propose d'écouter maintenant la sociologue Nassira Guenif dans un discours prononcé au Bandung du Nord. Donc c'est une conférence qui a été organisée par des militants et des intellectuels antiracistes à Saint-Denis le 7 mai 2018.
Il nous revient aujourd'hui, en tant que membres d'une société qui veut que la racisation ne soit plus la règle, mais soit définitivement éradiquée de nos vies, il nous revient aujourd'hui de parvenir à faire entendre une intransigeante voix qui dit qu'il n'est plus possible de maintenir dans un état d'expropriation la partie de la population qui est considérée comme illégitime au prétexte qu'elle a une certaine couleur de peau, au prétexte qu'elle a une certaine sonorité au niveau de son nom, au prétexte qu'elle a certaines positions politiques et au prétexte qu'elle s'est autorisée enfin à dénoncer le système raciste, systémique et au niveau de l'État qui aujourd'hui a décidé de la priver de ses droits.
C'est la permanence des discriminations raciales, Ahmed Boubekar, qui explique que certains parlent aujourd'hui d'un racisme d'État. Et est-ce que vous-même, vous reprendriez ce terme ?
Je ne sais pas, moi je parlerais plutôt d'un racisme. Il y a un racisme institutionnel qui est indéniable. Et si on peut parler d'un racisme d'État, c'est effectivement un racisme qui transparaît de plus en plus dans certains discours publics. Hein. Bon, en même temps, c'est pas général. L'État, c'est quoi l'État ? C'est effectivement les pouvoirs politiques. C'est aussi les institutions. Et on a effectivement dans les institutions un vrai souci. Alors moi, ce qui me marque surtout, c'est une espèce de banalisation hein, des discours d'extrême droite, une sorte de racisme respectable hein, qui transparaît, qui est de plus en plus important et qui a obtenu aujourd'hui une forme de légitimité.
Quelle forme,
légitimation publique. Bah, je parle à tous les discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une dimension multiculturelle, multiraciale de la France. Dès qu'on parle de ça, on est communautariste. Voilà. Ça, c'est le discours public, c'est la doxa qu'on entend aujourd'hui. C'est pas simplement à droite, c'est pas simplement à l'extrême droite, c'est aussi à gauche. Hein. Donc on a ça, et ça aboutit aussi à des situations qui sont assez douteuses. Moi, j'ai vu un gouvernement de gauche, j'aurais jamais cru que je vivrais ça, proposer la déchéance de nationalité pour les Français binationaux, sans qu'on sache véritablement qui est binational. Donc c'est quand même la construction, si vous voulez, d'une... ça aurait été la possible construction, et ça n'est pas fini, je pense, la possible construction, finalement, d'une citoyenneté à deux vitesses, de deux types de citoyenneté dans ce pays. Bon, d'ailleurs, François Hollande, qui n'est plus président, a reconnu que ça avait été une grosse erreur de sa part.
Didier Lapéroni, sur ce concept de racisme d'État qui est beaucoup mobilisé par les militants des coloniaux, notamment le Parti des Indigènes de la République.
C'est une catégorie politique, je ne pense pas que ça corresponde à une quelque réalité que ce soit en France. Par contre, je pense qu'on peut reprendre une vieille catégorie politique du Black Power, là, de Stokely Carmichael, c'est-à-dire l'idée de racisme institutionnel, qui me semble être plus pertinente pour décrire la réalité sociale et un certain nombre de pratiques sociales, de processus sociaux et institutionnels qui aboutissent de fait, même sans intention raciste, disons, à produire de la discrimination, à produire la ségrégation ou de la marginalisation d'un certain nombre de populations. Là-dessus, c'est greffé, ça c'est évident, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, une certaine prolifération des discours racistes au plus haut niveau, disons, du système politique, plus que de l'État, au niveau plutôt du système politique. Donc je pense qu'il faut voir les choses plutôt comme ça. Après, les militants utilisent le terme racisme d'État, ça peut se comprendre. Je ne pense pas que ça corresponde à une réalité quelconque.
Mais ces discriminations, en revanche, sont une réalité. Les discriminations, notamment dans le monde du travail, c'est quelque chose qui remonte de vos enquêtes de terrain, Didier Lapéroni, sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
Alors, plusieurs choses là-dessus. La discrimination, c'est quelque chose qui est observé depuis longtemps dans un certain nombre de mondes sociaux, dans le travail, dans un certain nombre d'accès à des services, d'accès aux loisirs, des choses comme ça. Il me semblait qu'elle se doublait de ségrégation raciale dans un certain nombre d'endroits aussi.
C'est par exemple le fait d'occuper un poste pour lequel on est surqualifié.
Ça c'est la discrimination dans un sens ou dans l'autre. La ségrégation, c'est quand les gens habitent dans des espaces qui sont des espaces différents parce qu'ils n'accèdent plus ou ils ne peuvent pas accéder ou ils ne veulent pas accéder. Enfin, peu importe aux espaces qui sont les espaces communs.
On va revenir effectivement sur cette ségrégation.
Ce que je crois, c'est que discrimination, ségrégation alimente le racisme général. D'une certaine manière, c'est pas l'inverse qu'il faut penser, c'est que la discrimination et la ségrégation de fait engendrent, disons, des formes d'idéologie raciale ou raciste qui viennent justifier tout ça.
Alors il y a la discrimination à l'embauche.
Et pas l'expliquer, mais justifier.
Il y a la discrimination à l'embauche, il y a aussi la discrimination, les discriminations qui peuvent intervenir lors des contrôles d'identité, ce qui pose la question de l'attitude de la police vis-à-vis des jeunes issus de l'immigration. Une attitude qui est influencé par l'héritage colonial pour certains, Ahmed Boubekir, c'est notamment le sens des travaux du sociologue Mathieu Rigouste.
Oui, avant d'en venir à la police, je voudrais quand même souligner quand même par rapport à cette histoire du racisme institutionnel, quand même, il y a quand même une question qui est fondamentale, c'est quand même le recul du droit, hein, le recul du droit commun. Et effectivement, quand on travaille sur les quartiers, c'est pas Didier Lapéroni confirmera, hein, il y a une véritable dérive de l'État administratif, hein, sur l'État politique qui aboutit à une sorte de citoyenneté faible, hein, et une espèce de droit qui est un droit mou, un droit sans recours. C'est une sorte d'ineffectivité du droit qui résulte effectivement de différentes pratiques de guichets administratifs ou de contrôles effectivement policiers. Ça veut dire que très concrètement, les usagers que sont les ayants droit des services, hein, que sont les habitants de ces quartiers, ils se trouvent cantonnés dans une position de bénéficiaire de ces services ou une sorte de posture victimaire, hein, qui les oblige à toujours se se justifier et il pense vivre une sorte d'arbitraire administratif dans des rapports qui sont des rapports vexatoires avec les agents des services publics.
Voilà. Et dans l'attitude de la police, justement, est-ce que vous y verriez un héritage colonial?
Pour la police, je ne sais pas si c'est un héritage colonial. Il y a toute une histoire, effectivement, de la police avec les banlieues et où on pourrait faire un lien, effectivement, avec la police coloniale. Je pense en particulier aux travaux d'Emmanuel Blanchard, qui s'est intéressé à l'emprise policière sur les immigrés algériens, un bouquin qui s'appelle « La police algérienne et les Algériens » de 1944 à 1962. Et il a mis en évidence dans ce bouquin les pratiques policières qui ont contribué à créer ce qu'ils appelaient le problème nord-africain. Alors très concrètement, il décrit des répertoires d'actions qui s'apparentent à ce qu'il appelle une police des citoyens diminués et qui concerne les Algériens, mais aussi les prostituées et les vagabonds aussi d'ailleurs. Et citoyens diminués parce que malgré le droit, ils sont soumis à un fort contrôle et ils sont susceptibles d'être raflés du simple fait de leur image publique négative. Alors, il y a bien sûr une analogie avec la situation des banlieues, notamment au début des années 80. Et effectivement, à cette époque-là, l'emprise des policières sur ces quartiers, elle était souvent, et d'ailleurs, ça a été le cas aussi par la suite, à l'origine des émeutes urbaines.
Et plus dans les années 80 qu'aujourd'hui.
Oui, et au début des années 80, c'était très marqué parce que il y avait un véritable, comment dire, une vraie présence. Enfin, elle est toujours présente, la police dans ces quartiers. Mais il y avait un véritable quadrillage policier qui était marqué dans ces quartiers, et ce qui aboutissait effectivement à des expulsions de jeunes lorsqu'ils apparaissaient trop souvent à la page des faits divers. C'était un moyen pour lutter contre ce qu'on appelait à l'époque la délinquance des jeunes immigrés. Et à l'époque, moi, j'ai travaillé sur des documents d'archives, notamment sur la région lyonnaise. Et à l'époque, j'ai retrouvé des textes où la hiérarchie policière, elle revendiquait la volonté de couvrir les bavures. Et parce que, effectivement, les rébellions, elles étaient interprétées dans ces quartiers, notamment au Minguette à l'époque, c'est les premières émeutes urbaines, elles étaient interprétées comme des phénomènes raciaux, qui étaient symptomatiques de ce qu'on appelait le dépassement d'un seuil de tolérance.
Alors Didier Lapéroni, je voudrais vous faire réagir à cela et puis évoquer effectivement la question des violences policières qui revient aujourd'hui dans le débat à l'occasion des manifestations, mais qui touche davantage les populations issues de l'immigration.
Oui, alors deux choses. Je suis pas sûr que ce soit un héritage colonial dans la mesure où il me semble qu'on a affaire à des pratiques policières qui sont antérieures, disons, à la colonisation et qui ont peut-être été transposées dans les colonies. Et donc qui est une logique ancienne, me semble-t-il, de l'État français.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un comme Geoffroy de La Gannerie, par exemple, le sociologue qui va dire que l'une des fonctions de la police, c'est, je cite, de maintenir la suprématie blanche dans l'espace public?
Bon, c'était déjà le cas de maintenir la suprématie de l'ordre, d'un certain type d'ordre au début du XVIIIe siècle face aux émeutes urbaines qui n'avaient pas grand-chose à voir avec
la
question raciale. Donc il me semble qu'il y a de fait, de ce point de vue-là, déjà un ensemble de pratiques policières, de contrôle, notamment des catégories populaires, qui me semble plus explicatif, cette histoire-là, que l'histoire coloniale. Même si cette histoire-là, ces pratiques-là ont été transposées par la suite, disons, dans les colonies.
Ahmed Boubekar.
Oui, si je peux me permettre, il y a quand même quelque chose de central, Didier, de ce point de vue. Je suis d'accord avec toi que les choses sont beaucoup plus larges. Mais néanmoins, moi, j'ai travaillé, au-delà des discours globaux sur ces questions, je pense qu'il est important d'avoir des enquêtes empiriques sur ces questions. Et quand on regarde des archives, c'est un travail sur des archives, sur ces questions-là, on ne peut pas nier que le fait, au début des années 80, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, en tout cas, quand ces questions apparaissent dans l'espace public, cette question du rapport à l'héritage colonial, il est marqué. La logique l'analyse policière de la situation dans les banlieues, elle est bien liée au fait que les problèmes urbains sont vus comme une incapacité culturelle à s'assimiler d'un groupe minoritaire au groupe majoritaire européen. Et donc, c'est effectivement que cette notion de seuil de tolérance, elle est fondamentale parce qu'elle est utilisée par la police, mais c'est quand même une notion qui a été bricolée aussi à l'époque de l'Algérie coloniale. Elle a été utilisée à l'époque dans le contexte de l'Algérie coloniale, dans le cadre de la politique d'intégration des musulmans dans l'administration française. Donc, cette question, c'est comme si, l'idée, c'est que, au-delà d'un certain seuil de présence, effectivement, ça pose problème. Alors, ça a été repris, on l'a entendu dans la bouche d'Hortefeux, je sais pas si vous vous souvenez, en 2009, quand il a sorti, il était à Clermont-Ferrand, quand il y en a un, ça va.
C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. On a tous en tête cette phrase, je pense.
Je sais pas s'il avait une arrière-pensée coloniale, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose, un substrat qui est important.
Alors, ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est les conséquences de cet héritage colonial sur les représentations de soi et des autres. On va en parler dans un instant.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité, les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux Harki qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé, comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective, vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci, parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France, j'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime, que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon. Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter, loin des artistes transparents? J'écris ce texte comme un miroir, que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
La lettre à la République de Kerry James. Nous sommes toujours en compagnie des sociologues Didier Lapéroni et Ahmed Boubaker pour parler des traces laissées par la colonisation dans la société française. Alors, quelles conséquences les discriminations et les représentations ont-elles eu sur le rapport à soi et aux autres des populations immigrées? Et d'abord, comment s'est construite l'image des banlieues? Écoutons un extrait d'un reportage diffusé sur TMC en avril 2017.
Bonsoir. Cambriolage, trafic de stupéfiants, guerre des bandes. Aujourd'hui, les délinquants n'ont peur de rien et surtout, ils sont de plus en plus jeunes. Certains des interpellés sont âgés d'à peine 10 ans. Alors comment faire face à des délinquants qui ne sont que des enfants? Quels sont les moyens dont disposent les policiers pour lutter contre cette délinquance? Pendant plusieurs mois, une équipe de 90 minutes enquête a suivi ces policiers et leur lutte acharnée contre le trafic de drogue. Des contrôles qui tournent parfois très mal et où les policiers doivent faire face à une véritable guérilla urbaine. Voici Chasseur de flag, un reportage de Jérémy Defalt.
Il y a plein de gens là qui font des drogues, des nanana, vous faites rien.
Contrôle, violence, cambriolage, trafic de drogue. Dans les quartiers chauds de Paris et de la banlieue, les policiers ont affaire à des délinquants de plus en plus violents et de plus en plus jeunes.
Voilà un extrait qui pose la question du rôle des médias dans la stigmatisation des banlieues et de leurs habitants et qui pose aussi, qui nous invite aussi à nous demander si cette image qui est imposée de l'extérieur a été intériorisée ou non par les populations immigrées. Didier Lapéroni. Sur ce rôle des médias et sur cette intériorisation peut-être de cette image.
Il me semble que les médias construisent une image qui est une image d'extériorité, d'extériorité négative. Et ils relaient, c'est plus qu'une image, parce que ils relaient aussi un ensemble de pratiques qui sont des pratiques quotidiennes, y compris dans les conversations ordinaires, qui sont bien inscrites à l'intérieur de la société. Donc, il me semble qu'au-delà des médias, c'est l'ensemble de la société française qui construit cette image du monde de la banlieue ou des univers ou de certaines banlieues. Ce qui ne recoupe pas, je voudrais aussi souligner ça, qui ne recoupe pas la question de l'immigration. Ça se recouvre partiellement, mais la question de l'immigration est beaucoup plus large.
On ne peut pas la cantonner à celle de la banlieue, bien évidemment.
On ne peut pas ramener la banlieue à la question de l'immigration. Il y a un problème spécifique ou une question spécifique de ce point de vue-là. Si on traitait d'immigration et d'héritage post-colonial dans l'immigration, il n'y a pas de raison de parler exclusivement de la banlieue. Donc il y a, ça c'est vrai, et votre reportage est assez caricatural, mais il y a cette espèce de construction générale par la société d'un extérieur, et ça passe évidemment par les médias, mais aussi les discours politiques, mais aussi nos discours ordinaires, mais aussi, me semble-t-il, la sociologie, les sciences sociales et tout ce qu'on peut dire et raconter, disons, sur cet univers.
Ahmed Boubekar.
Tout à fait. Effectivement, les clichés ne sont pas le monopole des journalistes. Et je dirais même que la presse, même si avec l'extrait que vous nous avez montré, on est vraiment dans le cliché le plus crade. Cela dit, auparavant, les médias ont quand même eu parfois un rôle positif pour la reconnaissance de certaines situations. Je pense en particulier au mouvement dans les années 80, tous ces qu'on appelait les mouvements beurre, la presse, et notamment la presse écrite, mais aussi la presse radio, ont eu un rôle très positif à l'époque. Moi, j'ai été aussi journaliste pendant 10 ans, donc effectivement, je ne vais pas non plus considérer que tous les médias ont eu un rôle négatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on assiste effectivement à la montée d'un journalisme d'image, quelque chose qui est, comment dire, très, très stéréotypé. Et sur ces quartiers, on a effectivement une négativité qui est marquée, mais qui n'est pas effectivement le monopole des journalistes, mais parce que très généralement, évoquer ces quartiers dans les discours publics, c'est souvent penser violence, c'est souvent penser insécurité, délinquance, radicalisme, en fait, tous les symptômes d'une sorte de maladie chronique qu'on essaye de circonscrire pour en quelque sorte éviter la gangrène du corps social. Mais on se rend compte effectivement que cette violence-là, eh bien, elle n'est pas le monopole des banlieues. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes, on se rend compte que ça n'est pas si simple.
Mais il y a la question des représentations imposées de l'extérieur et la question des représentations qu'on intériorise. Est-ce que c'est un phénomène auquel on assiste, Ahmed Boubekar?
Eh bien, effectivement, ce rapport à l'identité intériorisée, c'est d'image publique intériorisée, ça me semble quelque chose d'essentiel. Il y a une telle, une telle anomie, pour parler comme les sociologues, une telle perte d'identité dans ces quartiers, que les gens se raccrochent à n'importe quelle image, quand même, et ils reproduisent, parfois, ils sont des imitations de stéréotypes, ils se reprennent là-dedans. Quand on parle de ces quartiers, il y a tellement de discours, c'est tellement n'importe quoi, qu'on dirait que finalement, on est dans des mondes imaginaires. C'est des mondes qui sont construits, mais je dirais que la copie a fini par par remplacer le modèle réel.
Et c'est ce qui explique
tellement de quoi on parle.
C'est ce qui explique, selon vous, par exemple, pour prendre un sujet particulièrement polémique, et le voile. Le voile qui était un marqueur religieux, qui est de plus en plus un marqueur identitaire, revendiqué comme tel. C'est lié à cette revendication d'identité, à cette intériorisation dont on parle.
Ça en participe. C'est une construction qui s'opère en tout cas en France de ce point de vue-là. Mais bon, ça s'opère aussi dans d'autres pays. Hein. Mais c'est effectivement lié à une espèce de rapport, à une sorte de logique de panique identitaire. On s'imagine simplement que les populations franco-françaises qui en seraient victimes, et tout le monde est victime de ce rapport-là dans une société où finalement on a tous à essayer de montrer qu'on existe individuellement. Hein. C'est la montée de l'individualisme qui est très marquée de ce point de vue, et se raccrocher comme ça à des identités qui sont un peu construites, imaginaires, hein. Ça permet de s'imaginer qu'on existe.
Et à ce titre, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette polémique autour du hijab de sport que Carrefour a finalement renoncé à commercialiser? On a beaucoup entendu parler ces derniers jours. C'est une polémique finalement emblématique du débat qui nous intéresse aujourd'hui.
Il me semble que c'est Gosport, Décathlon plutôt que Carrefour.
Décathlon, absolument.
C'est Décathlon plutôt que Carrefour. Bah écoutez, ça c'est... Moi, je trouve que finalement, c'est vraiment monter en épingle quelque chose qui n'a pas lieu d'être, parce que finalement, si quelqu'un veut mettre un voile ou un torchon sur la tête ou ce qu'il veut, pourquoi pas? Après tout, les gens peuvent s'habiller comme ils veulent, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Pourquoi en faire des histoires politiques? Ça me semble pas quelque chose de fondamental. Et s'il y a un marché, vous pensez bien qu'un jour ou l'autre, quels que soient les discours publics et les discours politiques, ça permet ça à un moment ou l'autre, effectivement, s'il y a des gens qui veulent acheter ce type de produit, eh bien, ça se réalisera.
Mais Didier Lapéronique, qu'est-ce que ça nous dit, cet exemple? Il y en a évidemment bien d'autres. Des fractures qui traversent notre société, pourquoi est-ce que ça cristallise cette question, en l'occurrence du hijab de sport, les tensions de notre société?
Ça dit plein de choses. Mais ça nous dit, du point de vue qui m'intéressait moi, ça nous dit à quel point la construction médiatique, comme vous dites, ou la construction des images, a des incidences, même, et du stéréotype. Le problème étant que le stéréotype, c'est vrai. C'est-à-dire que ça a beau être un stéréotype, ça finit par avoir une réalité sociale beaucoup plus forte, et notamment pour les individus qui en sont les victimes ou qui sont directement visés et qui peuvent pas se penser ni se construire indépendamment, disons, du stéréotype. Ils sont un peu comme toujours le banlieusard, il est un peu comme à la fin de Colombo, quand on arrête le coupable, on lui dit vous pouvez garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. C'est-à-dire, dès qu'il apparaît, il apparaît à travers un stéréotype ou à travers une image qu'on lui demande de démentir, tout en lui disant qu'il ne pourra pas nous convaincre qu'il a démenti le stéréotype. Donc ça induit de fait des phénomènes de discrimination et un handicap social extrêmement lourd pour les gens, dans la mesure où ils sont obligés ils n'ont pas une confiance a priori, ils sont obligés de la gagner. Et donc on est là dans les mécanismes de fabrication du problème de la banlieue, de la discrimination ou de la ségrégation. Donc tous ces discours ne sont pas, de ce point de vue-là, anodins. Pour cette raison-là, et pour la raison aussi qu'ils empêchent d'une certaine manière, les gens ne cessent de le dire, qu'ils empêchent, et le rap que vous avez passé était très symptomatique de ça, qu'ils empêchent les gens de vivre leur vie. C'est-à-dire, ils ont ce sentiment de ne jamais pouvoir se détacher et
de
surmonter de cette assignation. Et ils finissent d'ailleurs par, d'une certaine manière, une partie d'entre eux, par intérioriser l'assignation en question, comme vient de le dire Ahmed Boubekeir. Donc, ça nous dit des choses qui sont dans la réalité sociale, me semble-t-il, beaucoup plus profondes que de simples écumes médiatiques autour de savoir s'il faut vendre des hijabs ou pas.
Bien sûr.
Ce qui me semble un peu débile et idiot comme discussion.
Mais on voit que cela dit beaucoup plus que ça n'en a l'air, en effet. Alors, vous le disiez, Didier Peroni, cette question de l'enfermement dans une identité se double d'un enfermement dans un espace donné. C'est ce que nous explique le sociologue Michel Kokoreff, on l'écoute.
De fait, ségrégation raciale, il y a bien. C'est-à-dire que, bon, enfin, pour parler un peu brutalement, dans les quartiers aujourd'hui, il y a un tiers de Noirs, un tiers d'Arabes et un tiers de ceux qu'on appelle aujourd'hui, c'est très symptomatique, des Français-Français. Bon, donc peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui ne le savent pas, qui n'y mettent pas les pieds, mais ce sont des réalités à rappeler. Et à côté de cette ségrégation raciale, il y a un très fort sentiment de discrimination. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ensemble de facteurs sociaux, territoriaux, disons ethno-culturels, qui ont une conséquence, c'est que plus la situation s'aggrave et plus les politiques publiques qui sont menées sont censées aider les gens. Or, elles les marginalisent, elles renforcent ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone, bon, de ce sentiment de relégation.
Un extrait de l'émission La Suite dans les idées du 5 janvier 2013 sur France Culture. Un mot, Didier Lapéroni, sur ce sentiment de relégation des habitants des quartiers populaires. Le racisme s'expérimente dans l'espace social ?
Je pense qu'il y a deux choses, le sentiment de relégation ou le sentiment d'abandon, qui est un sentiment généralement partagé et qui est très fort, avec ce sentiment qu'on n'est pas, comme le disent les gens dans les quartiers, on n'est pas des gens ici, nous, monsieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas le même statut, la même existence, la même citoyenneté que les autres. Et puis il y a la construction raciale et la construction du racisme, ce dont on en a parlé, qui vient se greffer là-dessus. Et qui est très difficile à vivre, il faut quand même bien le souligner, et qui a un impact très direct, quand on parle de la ségrégation, sur les formes d'organisation sociale, de définition de soi, qui peuvent être faites, qui peuvent se construire. Quand on parle du voile, il me semble qu'il est incompréhensible dans ces cités, si on ne fait pas intervenir ces questions raciales, la différence que le racisme établit entre les gens ou entre les sexes, et la façon dont les populations qui en sont victimes réagissent à ça, construisent une collectivité, ou construisent un collectif, construisent quelque chose, disons, pour essayer de résister à ça, et qui leur permet à la fois de se définir et de se protéger d'une certaine manière de tout ça. Donc, encore une fois, ce sont des choses qui peuvent paraître symboliques ou ténues, mais qui ont des effets sociaux qui me semblent fondamentaux. Et je dirais même psychologiques, qui me semblent fondamentaux.
Et vous revendiquez, Didier Lapéroni, le concept de ghetto pour désigner les espaces ségrégés. Pour quelles raisons ?
Je ne revendique pas le terme de ghetto pour désigner des espaces ou des quartiers. Pour moi, le ghetto, c'est une forme d'organisation sociale. Donc, il y a du ghetto dans un quartier, il y en a plus ou moins. L'idée du ghetto, qui vient des habitants auprès desquels j'ai travaillé, c'est l'idée que, face à la discrimination, au racisme, le fait d'être enfermé dans un espace, les gens fabriquent, disons, un mode d'organisation alternatif.
Une contre-société.
Une sorte de contre-société, si vous voulez, mais avec ses normes, avec ses valeurs, avec ses façons de construire son identité, avec et ce qui est fondamental, avec des rapports de genre qui sont particuliers, donc des façons de définir la masculinité, la féminité, et ainsi de suite. Donc ils fabriquent quelque chose comme ça, qu'ils appelaient le ghetto. C'est ça que ça veut dire. C'est une forme de contre-société, une forme d'organisation sociale. C'est pas un quartier. Donc dire qu'un quartier est un ghetto, je dirais jamais. Mais dire qu'il y a du ghetto dans un quartier, oui, ça me paraît évident.
Ahmed Boubekir, face à cet état de fait, selon vous, quels sont les moyens de résistance justement qui s'offrent aux populations que l'on dit racisées ?
Ouais, alors peut-être que je vais peut-être revenir rapidement sur ce que disait Michel Kokoreff sur le sentiment de discrimination. Moi, je crois que c'est aussi des faits, la discrimination. C'est pas qu'une question de sentiment. Quand on voit la situation de l'emploi, quand on voit les problèmes qu'ont ces personnes pour trouver un logement, c'est des faits. C'est pas simplement de l'ordre du sentiment. Et c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux ce que disait dans la chanson Kerry James, vous nous traitez comme des moins que rien. Mais c'est un fait. Hein. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et ça, on n'est pas que dans le symbolique. Alors, je sais pas s'il y a des contre-sociétés qui se créent dans les quartiers, mais en tout cas, les gens essayent de créer avec ce qu'ils peuvent. Quand on est rejeté, quand on ne trouve pas de place, on se construit comme on peut. Hein. C'est toujours des constructions qui sont des constructions précaires, fragiles.
Hein. Vous parlez de nouvelles dynamiques urbaines, par exemple.
Non, mais je dirais que malheureusement, on n'est plus dans la situation où on était dans les années 80, où il y a quand même eu, dans ces quartiers, un grand espoir. Il y a quand même eu des mobilisations citoyennes qui ont été parmi les plus marquantes en France à l'époque. Je pense en particulier, effectivement, à la marche pour l'égalité, mais d'autres aussi, mouvements contre contre effectivement les violences policières déjà à l'époque. Alors que reste-t-il effectivement de ces questions dans la mémoire collective? Finalement, pas grand-chose, parce que effectivement, il y a une vraie dispersion qui s'opère dans ces quartiers. Il y a une vraie souffrance, une vraie démobilisation.
Mais il y a aujourd'hui des collectifs et des mouvements. On a cité le Parti des Indigènes de la République, il y a le collectif Rosa Parks. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement qu'il y a quelque chose qui s'organise autour de ces questions?
Oui, il y a effectivement un renouveau militant qui s'opère, mais je suis pas convaincu que ce renouveau militant se fasse au plus près des quartiers. Hein. C'est une logique beaucoup plus politique, hein, de personnes qui effectivement sont dans l'espace public, mobilisent l'espace public, mais je suis pas convaincu qu'ils soient au plus près des situations des quartiers comme l'étaient les militants des années 80.
Il s'agit plus de porter la question de la race au niveau politique et syndical. Selon vous, Didier Lapéroni, et pas tellement d'être au plus près des quartiers justement concernés.
Bon, de ce point de vue-là, force est d'observer, si vous parlez des indigènes, c'est quand même de l'élite. On dira ça comme ça. C'est des gens qui sont quand même très loin de la réalité sociale des quartiers populaires. Et ça se sent d'ailleurs quand vous allez dans les quartiers populaires. Il y a souvent une hostilité très grande à tout ce genre de militantisme. Ce que je voudrais ajouter, c'est que depuis une dizaine d'années, les choses ont quand même évolué considérablement dans ce monde-là, à cause de l'appauvrissement général d'une grande partie de la population. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que ça induit des processus qui sont des processus d'enfermement, de clientélisation, si je peux dire ça comme ça, qui sont aujourd'hui beaucoup plus forts qu'ils n'étaient il y a une vingtaine d'années. Toute une partie de la population a plongé dans le monde de la pauvreté, ce qui n'était pas le cas dans les années 2000. Une autre partie arrive à se maintenir à peu près à niveau, mais vous avez aujourd'hui dans les quartiers populaires toute une partie de la population qui est profondément décrochée et qui, de ce point de vue-là, alors c'est un terme très polémique, est beaucoup plus proche d'une culture de la pauvreté qu'une culture du ghetto, si je suis clair. Ça ressemble beaucoup plus au monde d'Oscar Lewis qu'au monde de Kenneth Clark et des ghettos américains. Donc c'est aujourd'hui une des évolutions fortes qui induit le fait qu'une grande partie de cette population est totalement aujourd'hui à l'écart de toute vie sociale et de toute vie politique. Je voulais insister aussi sur cette dimension proprement sociale.
Un dernier mot peut-être, Ahmed Boubekker, aussi peut-être qu'il faut préciser qu'il est difficile de comparer la situation française avec les États-Unis, par exemple. Comment on pourrait conclure en quelque sorte sur cette vision d'un héritage colonial encore présent en France?
Je crois qu'effectivement les situations sont très différentes. Cela dit, aujourd'hui nous sommes dans des sociétés quand même qui sont marquées par la globalisation, et quelle que soit la société dans laquelle on vit, hein, au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Et donc notre société, elle évolue c'est une note positive, dans un contexte de laisser-faire culturel qui est beaucoup plus ouverte que ne laisse croire les discours républicains, les discours alarmistes, et de fait la population nationale n'est plus qu'elle était jadis, et de fait l'espace public s'ouvre au pluralisme de la culture, et c'est elle aussi de plus en plus le fait des minorités, comme en témoigne d'ailleurs le cinéma, le sport ou la musique, et même la création littéraire.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Alors que le salon de l'agriculture bat son plein aux portes de Paris, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la politique du gouvernement en matière d'agriculture responsable.
Oui, ou plutôt des renoncements du gouvernement en la matière. Pendant la campagne présidentielle, l'engagement d'Emmanuel Macron en faveur d'une agriculture débarrassée des pesticides et autres produits phytosanitaires était en effet on ne peut plus clair. On peut ainsi lire ces mots dans le programme du candidat à la présidentielle. Nous placerons la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Ils sont l'une des principales causes de l'augmentation des cancers des enfants depuis 20 ans. On ne peut plus clair donc.
Mais le candidat devenu président semble avoir revu ses ambitions à la baisse en matière de lutte contre le glyphosate notamment.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Certains députés, y compris de la majorité, ont bien tenté d'introduire dans la loi agriculture et alimentation un amendement pour interdire l'usage du glyphosate et autres herbicides d'ici à 2021. En vain, l'Élysée s'est assuré de faire échouer cette honorable proposition. L'argument reste toujours le même: imposer un changement changement aussi brutal conduirait immanquablement à pénaliser les agriculteurs incapables de s'adapter dans les temps. La transition se fera donc de manière individuelle et volontaire, naturelle et ordonnée, en réponse à la volonté du président de la République.
Le président de la République qui a pourtant estimé le mois dernier que la France n'arriverait pas à se passer entièrement du glyphosate d'ici à 3 ans.
Oui, une phrase prononcée dans le cadre du grand débat avec les Français. Celle-ci sonne comme une nouvelle forme de renoncement. Il y a en effet quelque chose d'étrange à voir le président miser entièrement sur l'action volontaire, tout en répétant à l'envi que jamais les agriculteurs ne parviendront à atteindre ses objectifs. D'autant qu'un rapport de l'Institut National de Recherche Agronomique estime que des alternatives au glyphosate existent pour 90% des surfaces agricoles. La question n'est donc pas d'augmenter les difficultés des agriculteurs, mais bien de les accompagner pour permettre à 90% d'entre eux de se passer de produits néfastes pour leur santé et pour l'environnement. Quitte à aménager des calendriers spécifiques pour les exploitations connaissant des contraintes ou des difficultés particulières.
En attendant, le ministre de l'Agriculture et la présidente de la FNSEA ont signé la semaine dernière, en marge du Salon de l'Agriculture, un contrat dit de solution pour sortir du glyphosate.
Exactement, une signature orchestrée par le principal syndicat d'exploitants agricoles pour montrer sa détermination à combattre l'usage du glyphosate à son rythme. Il s'engage ainsi à se passer de l'herbicide pour une majorité d'usages pour lesquels il n'existerait des alternatives accessibles et viables. En clair, pas le moins d'objectifs chiffrés et pas le début d'une ébauche d'obligations pour les exploitants. Pour la Confédération Paysanne, syndicat agricole concurrent de la FNSEA, l'objectif du texte est clair. Sous prétexte de ne pas brusquer les agriculteurs, projet louable en soi, la FNSEA et ses partenaires ont conçu un redoutable outil de promotion de l'industrie phytopharmaceutique. Comment croire en effet que l'Union des industries de protection des plantes, le principal lobby des pesticides en France et signataire du contrat de solution, signerait un texte réduisant l'usage des produits qu'elle-même commercialise.
Merci beaucoup Arjuna Andrade, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. Et à vos côtés se trouve Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous êtes venu avec le chiffre du jour.
Oui, le chiffre c'est 3. 3 fois l'aide américaine apportée à la France par le plan Marshall durant toute l'après-guerre. C'était le coût net qu'avait estimé l'économiste Jacques Marseille pour les aventures coloniales hexagonales entre le 19e et les siècles et les années 1960. Dans son livre « Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce » paru en 1984, il s'attachait en effet à montrer que celle-ci avait été en réalité une mauvaise affaire pour notre pays.
Le pillage des ressources des colonies a tout de même été une réalité, Guillaume.
Absolument, et personne ne le conteste. Personne ne conteste non plus que le colonialisme ait profondément déstructuré les sociétés des pays colonisés, laissant derrière lui des problèmes colossaux qui pèsent souvent encore aujourd'hui lourdement sur la capacité des pays concernés à construire leur propre développement. Personne ne conteste non plus que certaines familles, certaines entreprises, certaines villes françaises se soient grassement enrichies grâce à ces colonies. Mais ce qu'expliquait à juste titre, il me semble, Jacques Marseille, c'est que, au global, le bilan du colonialisme français était non seulement désastreux pour nous sur le plan éthique et morale, mais aussi perdant en fait sur le plan économique, contrairement à ce que croient à la fois beaucoup de tiers-mondistes et les nostalgiques du bon vieux temps des colonies.
Et alors comment comprendre ce paradoxe ?
Parce que pour établir et maintenir cette domination coloniale, il avait fallu en réalité investir dans ce projet non seulement beaucoup d'argent public, mais aussi beaucoup de temps et d'attention des acteurs publics, et que pendant ce temps-là, ceux-ci ne consacraient pas ce temps et cet argent au développement des capacités productives du pays, tandis que l'existence de ces importants marchés captifs pour les produits hexagonaux favorisait en réalité la survie de secteurs obsolètes et freinait en fait la modernisation de notre économie. C'est la raison pour laquelle les pays qui se sont le plus développés au XXe siècle ont été plutôt ceux qui, contrairement au Royaume-Uni, à l'Espagne, au Portugal ou à la France, n'avaient pas de lourd fardeau colonial à traîner, comme les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Japon, parce qu'ils étaient arrivés trop tard dans la danse impérialiste classique. Et c'est aussi pour cela que l'économie française s'est remise finalement sans grande difficulté d'une décolonisation pourtant brutale au tournant des années 1960.
Et quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer pour la France d'aujourd'hui ?
Bah d'abord, bien sûr qu'il n'y a strictement aucune nostalgie à avoir pour cette sombre période de notre passé, mais aussi que notre richesse d'aujourd'hui ne doit pas vraiment grand-chose à ce colonialisme. Celui-ci a été en réalité négatif pour tout le monde, les peuples colonisés comme nous-mêmes, même si c'est bien entendu sous des formes et à des degrés très différents. Il a cependant créé des liens qui perdurent, notamment sur le plan linguistique entre la France et l'Afrique, et au lieu de chercher à les couper à toute force en construisant des murs en Méditerranée, il faudrait au contraire les mettre d'urgence au service de la lutte contre les énormes dangers qui nous guettent tous, et en premier lieu la crise écologique qui menace la survie de notre espèce, et cela dans une relation équilibrée et enfin dépassionnée.
Merci beaucoup Guillaume Duval. Et je précise que la une d'Alternatives économiques ce mois-ci est consacrée à l'économie en 2019. On vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique. Et merci beaucoup Didier Lapéroni et Ahmed Boubekeur de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Didier Lapéroni, je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, L'individu et les minorités, paru au PUF. Quant à vous, Ahmed Boubekeur, vous avez coordonné le dernier numéro de la revue Le Portique, intitulé Philosophie des limites post-coloniales. Un grand merci également à Claire Vuillot du studio de France Culture à Lyon. Demain, notre table ronde d'actualité éco sera consacrée à la question du droit au chômage. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.